Salut les petites patates! On se retrouve pour une nouvelle saison de Friture sur Jet FM 91.2. Cette année, vous pourrez plonger dans notre grand bain le 3e lundi du mois à 17h, ou le 2e lundi selon les mois, ou sinon, tous les lundis à 17h, il y a des trucs de ouf. Même le 5e.
Surtout le 5e.
Aujourd'hui, il s'agit d'une intelligence, paraît-il, artificielle. Nous monterons à bord du vaisseau Kitano et ses robots sexuels. Puis direction Mars, avec Clément et son Review Express.
Nous laisserons le mot de la fin aux Marseillaises du Master de Création Littéraire, interviewé par Dark Crystal. Et sans plus tarder, une chronique peut-être factice sur les deepfakes. Let's go!
Il est impossible d'échapper à l'intelligence artificielle. Après des décennies de recherches, elle bouleverse notre rapport à la technologie et ses applications n'ont de cesse de se multiplier, de la médecine au transport, en passant par les services en ligne que nous utilisons chaque jour. Moteurs de recherche, assistants personnels, smartphones, applications de navigation, la liste semble ne pas avoir de limite. À l'image de sa consommation énergétique, à l'encontre de toutes les recommandations pour un monde viable. Intelligence artificielle. À eux seuls, ces deux mots disent bien de quoi il s'agit et résonnent comme une catastrophe annoncée. La réflexion sur l'utilisation des machines pour simuler la pensée a déjà commencé lorsque le terme est choisi en 1956, lors d'une école d'été réunie pour réfléchir à une nouvelle discipline scientifique visant à simuler le raisonnement. La recherche, qui n'a pas cessé depuis, a abouti ces 30 dernières années à une évolution extraordinaire de la communication humaine. Internet, smartphones, réseaux sociaux ont changé l'ensemble du système de l'information et notre interprétation du monde. On s'est à peine remis du choc de ces trois bouleversements qu'on assiste à la naissance des médias synthétiques. La technique du deepfake apparaît en 2016 avec le lancement du programme Voco de la société Adobe. Cette application permet de reproduire la voix humaine. Les travaux de Yann Goodfellow sur le deep learning ont permis aux machines d'emmagasiner des millions de données pour apprendre encore plus précisément ce que sont le visage et la voix d'une personne. Ces données collectées permettent de reproduire ou de créer du contenu. Nous avons désormais la capacité de créer synthétiquement des vidéos, des images ou des audios. Des faux qui ont l'air si authentiques que l'œil et l'oreille humaine ne peuvent pas voir qu'ils ne sont pas vrais. Et c'est un outil accessible à tous. Grâce au développement des algorithmes auto-apprenants, il est de plus en plus simple de fabriquer ses propres deepfakes. Microsoft a mis un lien pour créer un clone à partir d'une photo. On nourrit la machine en permanence et elle s'améliore en se nourrissant. C'est l'apprentissage machine dans le jargon. Le 17 mars 2022, la chaîne d'information Ukraine 24 diffuse une vidéo du président ukrainien Volodymyr Zelensky en pleine invasion russe. Pendant quelques minutes, les images montrent le président appelant ses soldats à déposer les armes. Cette vidéo a le temps de semer le trouble avant d'être rapidement retirée. La technologie devient si puissante qu'en quelques clics et quelques minutes, on peut cloner une voix et créer un avatar. Demain, ça fera partie de notre quotidien, au point qu'il sera compliqué de faire la différence entre réalité physique et réalité synthétique. Cette technologie se développe extrêmement vite et a la capacité de changer complètement notre perception de la réalité. On est encore habitué à croire ce que l'on voit de ses propres yeux et ce qu'on entend de ses propres oreilles. On entre dans une ère où ça ne sera plus le cas. Les usages malveillants, criminels, ne se sont pas fait attendre. Fini le piratage de vos contacts avec la réception du mail d'un ami dans le besoin. Aujourd'hui, les imposteurs utilisent la réplique de la voix et du visage. Des deepfakes sexuels circulent où des visages de femmes sont mis sur des images porno. En août 2024, les autorités sud-coréennes découvrent un gigantesque réseau de canaux Telegram qui diffuse des contenus pornographiques truqués. Leurs créateurs, qui se comptent par centaines, piochent généralement les photos de leurs victimes sur les réseaux sociaux. Et d'après les enquêteurs, la plupart des victimes sont des femmes, dont 60% de mineurs. En Corée du Sud, les crimes de deepfake sexuels sont devenus un problème social. Ce mois d'octobre 2024 est le mois européen de la cybersécurité. L'Office fédéral suisse de la cybersécurité, l'OFCS, y participe à travers une campagne pour alerter sur les escroqueries liées à l'IA et sur les dangers des deepfakes. L'IA est sans surprise en vogue dans le milieu des cybercriminels. L'OFCS lance donc cette campagne de sensibilisation avec le slogan « Think before you click » et expose la manière dont les cybercriminels utilisent l'IA à travers diverses tactiques de manipulation pour piéger leurs victimes. Selon Jean-Gabriel Ganassia, président du comité d'éthique du CNRS, ce n'est pas de l'IA en elle-même qu'il faut avoir peur, mais des humains derrière. Oui, c'est bien le cas de chaque outil, qu'il soit une découverte scientifique ou une avancée technologique. Le problème est comment on l'utilise, qu'est-ce qu'on en fait. C'est le cas aussi bien pour la découverte de la radioactivité que de la création d'Internet et des réseaux sociaux. L'humanité est capable du meilleur comme du pire. Et on sait d'expérience qu'elle ne trie pas. Elle exerce les deux simultanément. Dès 2024, l'astrophysicien Stephen Hawking déclarait à la BBC « Le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à l'humanité. Les humains, limités par une lente évolution biologique, ne pourraient pas rivaliser face à cette technologie et seraient dépassés. » Il sera plus nuancé par la suite, disant qu'elle est aussi porteuse d'espoir. Lui, dont la voix robotique si reconnaissable, était générée par intelligence artificielle. Les lunettes connectées de Meta, anciennement Facebook, qui comme toutes les entreprises qui changent de nom veulent se racheter une image, sont dotées de capacités d'IA générative. Générative, c'est-à-dire qui créent de nouveaux contenus, texte, audio ou vidéo. En regardant un objet, par exemple, on peut avoir des informations à son sujet. Ces lunettes vont permettre de siphonner encore plus de données comportementales sur des milliers d'individus. Le fameux apprentissage machine. La machine se nourrit. Deux étudiants de Harvard ont détourné ces lunettes pour sensibiliser l'opinion publique à l'IA. Ils ont créé un logiciel qui s'appuie sur PimEyes, une plateforme de reconnaissance faciale en ligne. La monture connectée transmet en direct ce qu'elle filme et le moteur de recherche se charge ensuite de sortir tous les sites sur lesquels la personne ciblée apparaît, fournissant ainsi son nom, son métier, son adresse, ses activités, bref, toutes les informations qu'elle a laissées sur le net. Tout est sous contrôle. Le 5 juin 2024, une lettre ouverte co-signée par des employés anciens et actuels d'OpenAI, l'entreprise américaine qui a développé ChatGPT, et de DeepMind, l'entreprise appartenant à Google spécialisée dans l'IA, dénonçait les dangers cachés des techniques d'intelligence artificielle. Un des signataires, Daniel Cocotaggio, estime dans une déclaration faite à la fin mai au New York Times à 70% les chances que l'intelligence artificielle générale détruisent ou nuisent irréversiblement à l'humanité. Ils redoutent peut-être le développement des robots tueurs. ces systèmes autonomes d'armement qui, contrairement aux drones pilotés par des humains, pourraient prendre des décisions et agir de manière autonome. Ces armes sont présentées comme la troisième évolution des techniques de guerre, après la poudre à canon et l'arme nucléaire. Certains scientifiques estiment qu'elles représentent une menace trop grande pour l'humanité. Le Comité international pour le contrôle des armes robotiques fait campagne pour un usage pacifique de la robotique et une régulation de ces armes. Mais les développements de l'année dernière ont montré que les gouvernements étaient réticents à limiter l'utilisation militaire de l'IA. Et la concurrence pour développer rapidement ces produits n'incite aucunement les entreprises technologiques à prendre la sécurité en considération. Geoffrey Hinton, surnommé le parrain de l'IA, et dont nous allons parler juste après, souhaiterait quelque chose de similaire aux conventions de Genève pour en réglementer l'usage. Il déclare « Mais je ne pense pas que cela se produira avant que des choses très désagréables ne se soient produites. » Ce mardi 8 octobre 2024, le prix Nobel de physique a donc récompensé des avancées fondamentales pour le développement de l'IA. Il a été décerné à l'Américain John Hopfield, 91 ans, et au Britanno-Canadien Geoffrey Hinton, 76 ans, pour leurs travaux sur l'apprentissage automatique. Ils ont utilisé des concepts fondamentaux de la physique statistique pour concevoir des réseaux de neurones artificiels qui fonctionnent comme des mémoires associatives et s'inspirent du réseau de neurones de notre cerveau. Dans un réseau de neurones artificiels, les neurones sont représentés par des nœuds qui portent différentes valeurs et s'influencent entre eux via des connexions. Ils peuvent être comparés à des synapses. On obtient ainsi un logiciel flexible et évolutif. Il ne reste qu'à lui apprendre une tâche en lui fournissant des milliers de données qu'il analyse et à partir desquelles il s'entraîne. Il peut affiner ses propres réglages pour se rapprocher du résultat attendu. Une révolution est en marche, qui va si vite qu'elle fait peur à ses propres concepteurs. Hinton s'exprime ainsi dès la remise de son prix. « Je pense qu'elle aura une influence considérable. Ce sera comparable à la révolution industrielle. Mais au lieu de dépasser les humains en matière de force physique, elle les dépassera en termes de capacité intellectuelle. Nous ne savons pas ce que c'est que d'avoir des objets plus intelligents que nous. Et ce sera merveilleux à bien des égards, notamment dans des domaines tels que les soins de santé. Mais je crains que la conséquence globale de tout cela ne soit des systèmes plus intelligents que nous qui finissent par prendre le contrôle. » Ce n'est pas la première fois que Geoffrey Hinton, qui a contribué à des avancées majeures en IA depuis les années 80, alerte sur les risques éthiques et sociétaux liés à cette technologie. Après plus de 10 ans passés en tant qu'ingénieur en chef au sein de Google, il avait quitté l'entreprise en 2023 pour pouvoir exprimer librement ses préoccupations. En mai de la même année, dans un entretien à la BBC, il abordait l'impact de l'IA sur l'emploi et l'inégalité économique. Selon lui, l'IA augmentera la productivité et créera plus de richesses. Mais à moins que les gouvernements n'interviennent, elle ne fera qu'enrichir les riches et nuira aux personnes qui perdront leur emploi. « Ce sera très mauvais pour la société », a-t-il déclaré. Puis, dans un article du New York Times, il mettait en garde contre les profonds risques pour la société et l'humanité et confiait qu'une part de lui-même regrettait l'œuvre de sa vie. « Je pense que d'ici 5 à 20 ans, il y aura une probabilité de moitié que nous soyons confrontés au problème de l'IA qui tente de prendre le dessus. Cela entraînerait une menace d'extinction pour les humains, car nous pourrions avoir créé une forme d'intelligence qui est tout simplement meilleure que l'intelligence biologique. C'est très inquiétant pour nous », déplorait-il. À l'heure où on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui, comment donner un sens au monde? La désinformation submerge l'écosystème informationnel et on ne sait plus à quoi se fier. Dans le monde entier, les gens commencent à baser leur vie, leur prise de décision, sur la base d'informations erronées. Chacun vit dans sa bulle avec ses filtres, chacun sa propre compréhension et sa propre version. Il devient très dur de se mettre d'accord et a fortiori d'agir collectivement. Nous avons été et sommes témoins des clivages autour du changement climatique ou du coronavirus. Tout ça nous individualise encore un peu plus et on constate les freins que cela met en place là où jusqu'à présent on pouvait arriver à faire front ensemble, à déterminer des positions communes pour avancer malgré tout. On peut parler de crise de la post-vérité, sorte de crise existentielle qui touche notre capacité à partager une compréhension de la réalité et donc notre capacité à agir collectivement. La seule fiabilité possible semble résider dans la vie réelle, physique, puisque tout ce qui passe via un écran est désormais suspect. Tous ceux qui ont une connaissance pointue de ces sciences et technologies, ceux-là même qui les ont créées, nous mettent en garde, nous avertissent de leur dangerosité, sans pour autant stopper quoi que ce soit, continuer d'aller au bout de leurs recherches, pour l'amour de la science, de la connaissance, de leur ego de génie. Et on sait que ce système capitaliste qui finance leurs travaux ne renoncera à aucun enrichissement supplémentaire possible, quand bien même l'avenir de l'humanité serait en jeu. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais, à l'époque où l'imprimerie venait de remplacer la plume. 500 ans plus tard, sa maxime a peut-être inspiré les scénarios de science-fiction les plus sombres. Mais quand les dystopies commencent à ressembler davantage à la réalité qu'à la fiction, on peut craindre davantage que la ruine de l'âme.
John est un peu nerveux. Assis côté fenêtre dans le bus autonome B51, il essaie de se distraire en regardant défiler le paysage de la mégacité de Nantes-Saint-Nazaire. Au loin, sur les chantiers navals, il voit s'agiter les silhouettes gigantesques des robots constructeurs. Ce dernier investissement a eu lieu il y a 5 ans maintenant, en 2039, et a permis à la direction de remplacer 3000 humains par des machines. John a bien compris le sens du vent du haut de ses 20 ans et suit des télé-études en développement d'intelligence artificielle et robotique. Il faut bien vivre.
Bonjour, citoyen John. Veuillez présenter votre autorisation de sortie, s'il vous plaît.
John sursaute légèrement. Aspiré par la contemplation, il n'avait pas vu entrer le robot surveillant dans le bus autonome. John se tourne vers le robot en le regardant dans sa caméra et pose sa main gauche sur le centre de la poitrine métallique. Bonjour, surveillant. Voici mon autorisation. Il ne faut pas plus d'une seconde pour que les informations soient transmises et le robot surveillant repart en roulant vers un autre passager après lui avoir souhaité une bonne sortie. Les autorisations de sortie devenaient de plus en plus dures à obtenir. La Smart City gérait les flux pour que les humains se croisent le moins possible en dehors des champs de contrôle. C'était le prix à payer pour éviter les risques pandémiques et minimiser la consommation d'énergie. John était privilégié avec sa carte de citoyen +++, son domaine d'études et le travail de son père pour le gouvernement. Il arrivait à avoir jusqu'à 2 sorties par semaine. En sortant du bus autonome, John ne peut s'empêcher de vérifier les alentours. L'objet de sa sortie lui laisse un sentiment de honte autant qu'elle l'excite. Socialement, avoir une petite amie virtuelle est devenue chose courante. John en a 2. Par contre, la fréquentation d'une maison de sex-robot est encore mal vue par les rétrogrades et les pro-humains. C'est l'échec de sa relation avec Laureline qui a convaincu John d'arrêter d'investir dans une relation avec un être vivant pour se tourner vers les machines. Il n'avait jamais vraiment compris Laureline, ses élucubrations et ses envies. Il avait pourtant appliqué à la lettre les protocoles du programme de séduction qu'il suivait sur Meta, à croire que les relations humaines ne pouvaient conduire qu'à la frustration. Arrivé devant un bâtiment blanc tout à fait ordinaire, John pose sa main sur le contrôleur mural. La porte blindée s'ouvre en glissant silencieusement et une voix s'élève. « Bienvenue John, veuillez choisir votre modèle et votre scénario. » John pianote sur l'écran. Il rentre les mêmes choix que ceux qu'il a fait la dernière fois. Ce modèle reproduit l'apparence d'une héroïne d'un animé porno qu'il affectionne. John emprunte ensuite un couloir au mur immaculé. La porte de la sex room s'ouvre automatiquement sur son passage. Prostré au fond de la pièce, La machine aux cheveux roses et au costume de lycéenne garde les yeux baissés. Le soulèvement de sa poitrine imite une respiration essoufflée. John ouvre l'armoire à ustensiles. Il a envie d'essayer quelque chose de différent. Sa main se referme sur la poignée du fouet.
Hello, hello, c'est Eno. Bienvenue à bord du vaisseau Kitano pour voguer ensemble sur le bain de friture de l'intelligence artificielle et des robots sexuels. La courte fiction que vous venez d'entendre place les robots sexuels dans un futur de 20 ans et fait naître John aujourd'hui même. Pourquoi pas ? Les sex-robots qui y sont décrits sont le fruit de la fusion entre différentes technologies bien présentes. Celle des IA génératives conversationnelles appliquées aux relations romantiques, des robots humanoïdes travailleurs et des poupées sexuelles hyper-réalistes en silicone. Le chiffre d'affaires du secteur du sexe a dépassé les 50 milliards par an en 2020, avec presque la moitié représentée par le commerce des sex-toys auxquels appartiennent les poupées sexuelles. Ce chiffre ne prend pas en compte le marché de la prostitution, non déclaré, informel, voire illégal, mais qui emploie dans le monde des millions de personnes, essentiellement des femmes. Que l'industrie du sexe investisse dans les technologies de l'intelligence artificielle et de la robotique pour créer des robots sexuels au service des consommateurs apparaît de plus en plus comme une évidence. Mais quels en seront les effets sur la société et nos comportements ? Pour répondre à cette question, petite interview croisée de WM et WN. Excusez pour le son, l'enregistrement a été réalisé autour d'une table de crêperie après une matinée de pêche à pied. Je vous laisse donc pour cette fin de traversée, et je vous dis à dans 2 mois. Alors, WM, est-ce qu'un robot sexuel peut avoir un impact positif ou négatif sur les comportements masculins ?
Je pense que ça dépend des personnes, mais j'aurais tendance à dire que ça a un impact négatif parce que déjà que les hommes cis hétérosexuels ont tendance à se sentir un peu tout permis, j'ai peur que ça débloque un truc dans leur tête de « Ah bah de toute façon, je peux faire ce que je veux ». Et j'ai une solution dans ma vie pour pouvoir faire ce que je veux à un robot, du coup. Et que du coup, ils aient tendance à attendre ça aussi des femmes. Et que du coup, ils deviennent encore plus virulents si jamais on n'est pas amené à répondre aux moindres de leurs attentes, quoi. Donc moi, j'aurais peur que ça ait un impact vraiment négatif. Et que, comme les jeux vidéo ont démocratisé une forme de violence, là j'aurais peur que ça fasse exactement la même chose et que ça les conforte dans une idée où il y a un monde où ils peuvent faire ce qu'ils veulent et du coup pourquoi pas, ce serait le monde de tous les jours, quoi.
Pourquoi les hommes pourraient préférer des relations sexuelles avec des robots plutôt qu'avec des humains ?
Du coup pour la même raison, parce qu'il n'y a pas de limite, parce qu'on leur dit jamais non, parce que on est quand même dans une société où on leur a appris qu'on n'était pas censé leur dire non. Et du coup, ça pourrait carrément, les conforter dans leur confort de « on ne me dit pas non, j'aime bien ça et une vraie meuf, elle va dire non, elle va faire chier, en plus elle va parler et je ne sais pas s'ils ont envie qu'on parle. » Parfois, je me pose la question. Je pense que parfois, ils préfèrent quand on ne parle pas. Voilà.
Est-ce que à partir du moment où tu as établi la relation avec le robot, il y aurait un point de non-retour, ou est-ce que ce serait juste une aide temporaire vers une relation humaine ?
Moi, je pense au mec dans sa chambre qui va sur les réseaux sociaux et sur les jeux vidéo parce qu'il est tout seul, qu'il a du mal à aller vers les autres, etc. Et je me dis, en ça, est-ce que peut-être parfois ça pourrait être une aide ? Parce que du coup, ça le permet de peut-être reprendre confiance sur certaines choses, etc. Puisque, il aura aucune limite dans la relation. Mais je pense que ça peut aussi être un point de non-retour. Du coup, ça devient la norme et ça devient... leurs attentes, elles sont basées là-dessus. Et du coup, quand ils vont revenir à une relation traditionnelle avec une personne humanoïde, du coup, ben, il va y avoir une déception permanente et un refus permanent de retrouver une réalité, quoi. Voilà.
Merci beaucoup.
Et ben, de rien.
Bonjour, double N.
Bonjour.
Alors, du coup, même question. Est-ce que vous pensez qu'un robot sexuel peut avoir un impact positif ou négatif sur les comportements masculins?
Alors, je pense que... Attends, je n'ai même pas réfléchi à cette question. Je pense que le positif que ça peut avoir, peut-être, ce serait que tous les fantasmes les plus sordides pourraient avoir lieu seulement avec un robot, avec une intelligence artificielle, et plus, enfin je l'espère, avec des personnes humaines. Mais du coup, ça demande quand même un accompagnement, je pense, psychologique, s'il y a ces fantasmes, violents. Et du coup, l'impact négatif, c'est le fait que on se croit tout permis, que la personne qui, donc l'homme qui interagit avec le robot, se croit tout permis avec les femmes, qui est cette cette dominance en fait. Et du coup, ça, c'est hyper problématique.
Et pourquoi les hommes pourraient préférer avoir des relations sexuelles avec des robots plutôt qu'avec des humaines?
Chez entre deux humains, il y a une relation où il y a de la communication. Et du coup, avec un robot, avec une intelligence artificielle, si on arrive à le programmer pour qu'il ne parle pas ou pour qu'il assouvisse tous les désirs sans dire non, y a ce truc carrément de domination, de je suis tout permis, je suis le plus fort et c'est super, et il n'y a aucune personne qui va m'interdire quoi que ce soit. Et je pense que du coup c'est le kiff, quoi, le kiff d'être le roi du monde sans avoir personne qui nous dit, qui nous interdit, quoi, des choses.
Ok, et dernière question. Est-ce que vous pensez qu'à partir du moment où on a établi une relation avec le robot, il peut y avoir un point de non-retour? Ou est-ce que ça peut être juste une aide temporaire pour revenir à une relation entre humains, quoi?
Ouais, et du coup, comme je disais juste avant, la première question, je pense que s'il y a un accompagnement extérieur, quelque chose de plus psychologique, où on peut discuter, peut-être que ça peut être une béquille pour un moment donné où on est en détresse. Là j'ai besoin d'assouvir certains besoins et je me sens seule, et c'est la seule solution que j'ai qui ne fait de mal à personne à part un robot, donc quelque chose de matériel. Mais je pense que ce serait très dramatique si c'est un point de non-retour, parce que ça pose beaucoup de questions sur les relations humaines, mais juste pas forcément physiques, mais aussi émotionnelles. Et on est nous, les êtres humains, on est des êtres sociaux qui se connectent, qui ont besoin de se connecter avec les gens. Et s'il y a cette relation de non-retour, je trouve ça très problématique de ne pas pouvoir relationner même émotionnellement avec des gens humains, des êtres humains. Voilà.
Et merci beaucoup, WM.
Merci, WM.
Over.
make it, do it, makes us. Harder, better, faster, stronger.
Salut les Fritas, bienvenue sur la première review ciné express du Bain de Friture. Quand on aborde le sujet de l'intelligence artificielle, on finit forcément par parler de science-fiction, de cohabitation entre humains et robots, et d'exploration spatiale. Le film d'aujourd'hui, c'est un mélange de tout ça à la sauce polar noire. Mars Express est un film de Jérémy Perrin et Laurent Sarfati, sorti en novembre 2023 après 5 années de réalisation. Il a été présenté hors compétition au Festival de Cannes en sélection officielle et au Festival de films d'animation d'Annecy. En l'an 2200 sur la planète Mars, qui a été partiellement colonisée par les humains, on y suit Aline Ruby et Carlos Rivera qui sont deux détectives privés, respectivement anciens alcooliques et humains sauvegardés. Tous deux travaillent dans la ville de Noctis, une technocité faite de buildings et contrôlée par de grands consortiums à l'avarice dévorante, où ils auront pour mission de retrouver June Cho, une étudiante en cybernétique qui aurait piraté un robot de sa fac. Or, dans ce monde, c'est interdit. Les robots sont soumis à des directives, genre loi de la robotique, qui les rendent serviles et inoffensifs pour les humains. Lors de cette enquête, Aline et Carlos se rendent compte que June est également pourchassée par des assassins. S'engage alors une course contre la montre pour la retrouver avant eux et récupérer le secret qu'elle détient et qui pourrait changer l'ordre social de ce monde. Dans Mars Express, les grandes thématiques de la science-fiction sont abordées, notamment celles de l'habitabilité, de la destruction de l'environnement, de l'obsolescence programmée et de la finitude de notre propre espèce. Mais la thématique qui nous intéresse ici et qui n'est pas décorrélée des premières, ce sont les robots. Dans ce film, eux et leur intelligence artificielle ont la part belle au récit et à l'intrigue. Qu'ils soient des sauvegardés, personnes décédées dont la mémoire a été téléchargée dans un corps artificiel ou des androïdes, les robots ont toute leur place dans le quotidien de Noctis. Ils effectuent toutes sortes de tâches et tendent parfois même à remplacer les humains pour certaines d'entre elles, souvent les plus ingrates. C'est le ressort scénaristique du déplombage, un procédé qui permet aux robots de s'affranchir des directives qui leur sont imposées par les humains, qui permettra d'explorer les différents aspects liés au libre arbitre de l'intelligence artificielle. Sans vous divulgâcher la fin, là où les humains continuent perpétuellement de piller leur environnement à des fins capitalistes, les robots trouvent peut-être un moyen de s'émanciper de la prétendue toute-puissance humaine. Vous l'aurez compris, le film est rempli d'une charge critique à l'égard du technosolutionnisme spatial ou terrestre, qui n'est qu'un énième piège bourgeois et qui ne répondra pas à l'urgence climatique dans laquelle nous nous trouvons, et que les plus défavorisés de notre monde subissent déjà de plein de fouet. Si vous aimez la science-fiction et l'animation qui ne vous prend pas pour des enfants, alors je vous conseille vraiment d'aller voir Mars Express. Et si vous êtes des habitués d'Internet, vous y retrouverez même des voix qui vous sont familières.
Chris Roy Jacker vous attend dans votre bureau.
Aline Ruby, Carlos ne vous a pas fait entrer ?
Ah oui, lui aussi mis à jour.
C'est ma fille, June. Elle a disparu et sa camarade de chambre aussi. Sa chambre est au campus Alan Turing.
Mode sobriété activé.
Ouais, désactivation.
Elles ont disparu ensemble. Qu'est-ce qu'elles pouvaient avoir en commun ?
Le proviseur, il va vous montrer l'enregistrement.
J'ai essayé de l'éteindre. C'est pour ça que l'Android se défend.
Désactivation !
Il enfreint la directive 1.
On a localisé l'Android.
Vous voyez ça ? Il s'est pas laissé faire, le gars.
Eh, venez voir par ici !
Je comprends pas. Pourquoi construire un vaisseau spatial ? Qu'est-ce que Jun Cho a fait à ce robot ?
Sa fille soupçonnait Jun de se prostituer.
Regarde ce que je vois en thermique.
Vous avez des prostituées humaines ?
Rien que du synthétique, mais nous nous considérons comme 100% humains. Pas vrai, monsieur ?
C'est un logiciel pour prendre le contrôle total d'un robot.
On a bien vu ce que ça donne, des robots lâchés en liberté.
Écartez-vous !
Missile !
J'arrive, Aline !
Elle questionne, elle intrigue, elle inquiète. Résumée par deux petites voyelles, IA, deux lettres qui, une fois prononcées, dopent un imaginaire stylisé, médiatique, scientifique, cinématographique et littéraire. Remplie et façonnée d'histoires et de récits, d'images et de scénarios, nous plongeons malgré nous, et toute culture confondue, presque, dans les plus féroces représentations dystopiques d'un avenir sombre et sécuritaire, dangereux et pourtant qui semble si proche. Après la Seconde Guerre mondiale, au moment où les premières formes de systèmes intelligents désignés IA apparaissent, la littérature s'empare direct de ce nouveau phénomène qu'elle dénonce avec force dans le classique 1984, chef-d'œuvre visionnaire de l'écrivain britannique George Orwell, paru en 1948, qui mettra sa plume au service de la dénonciation du Big Brother qui nous regarde, illustrant par là même les dérives du pouvoir et des régimes politiques autoritaires. Sa prédiction était à l'époque considérée comme terrifiante. Alors que dire aujourd'hui de nos modes de vie tracés, ultra connectés, où les smartphones et autres caméras de vidéosurveillance, appelées aussi vidéoprotection, sont devenus des compagnons et des espions quotidiens auxquels plus personne ne peut échapper. S'il est vrai que la littérature dite SF, dystopique ou cyberpunk, qui explore les thèmes d'intelligence artificielle, du transhumanisme, des nouvelles technologies, ou de la relation homme-machine existe depuis longtemps, on pourrait ainsi citer Frankenstein de Mary Shelley, Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, ou encore Mission terminée, paru en 64 de l'écrivain camerounais Mongo Betty, il faut reconnaître que ces 10 dernières années voient naître un regain d'intérêt pour ces genres pas si nouveaux, qu'on qualifie d'anticipation ou encore d'éco-poétique. Plus que jamais, on y questionne ce progrès en pleine expansion, mais surtout ses conséquences et ses finalités. Un autre genre émerge, depuis peu, autour des œuvres centrées spécifiquement sur l'impact sociétal, moral et philosophique de l'IA. On l'appelle IA fiction. Dans ces œuvres, où l'IA joue un rôle central, les auteurs posent des questions sur l'éthique, la conscience, l'avenir de l'humanité, le rôle et la fonction réelle ou supposée des machines. Des jeunes étudiants écrivains en master de création littéraire à Marseille, partagent pour Bain de Friture sur Jet FM leurs réflexions sur le sujet en direct de la Vieille Charité.
Avec
Younes.
Voilà.
Déjà, il faut savoir ce que c'est que l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne globalement. Quand on entend intelligence artificielle, on pense souvent à ChatGPT, Claude AI, etc., des IA qui sont des modèles de langage, qui en fait sont une version un peu plus poussée de la suggestion de mots qu'on a dans notre téléphone. Du coup, tout ce que ça fait, c'est suggérer un mot, c'est prendre la réponse la plus logique au mot précédemment dit et au prompt, en fait, à ce qu'on a demandé. Et ensuite, le modèle de langage écrit comme ça. Il va écrire « j'écris » et il va considérer que le mot « ça » est le meilleur qui va derrière. Donc, il va écrire « j'écris ça ». Et ça, jusqu'à la fin. Donc, il ne peut pas penser au point de vue où il ne peut que recréer du même. Il ne peut que recréer des agencements différents de ce qu'il a déjà vu. Et donc, des textes sur lesquels il s'est entraîné. Donc il ne peut pas, il ne peut que répliquer du même. Or la littérature, il faut savoir aussi ce qu'on entend par littérature, mais a priori, quand on entend littérature, on entend art. Et l'art, c'est justement le fait que ce ne soit pas une réplique du même. L'art, c'est on ne recrée pas tous les jours, tout le temps, la même chose. L'idée de l'art, c'est d'apporter une rupture avec ça. Ce qui est contraire, par exemple, au commerce. Le commerce, on ne fait que recréer du même, et on voit par exemple que la créativité, ce qu'on appelle la créativité, est beaucoup prônée dans les milieux du marketing, des startups, etc. Donc des milieux commerciaux, et là, dans ces cas-là, l'IA, l'intelligence artificielle, peut être utile.
Tous ces genres littéraires, profondément ancrés dans l'histoire de la littérature, sont à mettre en lien direct avec nos préoccupations actuelles de crise environnementale, technologique et sociale, qui semble irréversible et sans issue, et comme toujours, l'art, sous toutes ses formes, l'accompagne et en témoigne. ...2024, la littérature ne fait pas qu'écrire sur l'IA, elle s'en sert, et l'IA écrit de la littérature. Elle aussi prend la plume, ou plutôt le clavier. Les écrivains, tout comme les cinéastes, la commentent, la questionnent, se laissent également influencer par elle. Pour certains, s'en servent, mais pour l'instant, on vous l'assure, elle n'initie rien, elle ne crée rien, elle est au service d'eux. Mais jusqu'à quand ?
Alors, on est en direct de la Vieille Charité, avec des jeunes écrivains et écrivaines, voilà.
À notre échelle, de toute manière, on ne peut pas y faire grand-chose, donc on essaye de l'utiliser au mieux et de manière éthique. Après, toute la question est de savoir ce que veut dire éthique, surtout dans notre milieu artistique. Qu'est-ce qui est de l'art, qu'est-ce qui n'en est pas ? Je pense que c'est là où on peut saisir les enjeux de la thématique de l'IA.
Après moi, dans mon écriture, selon ce que je dois faire et selon l'inspiration aussi, j'utilise l'IA comme matériau de base, en fait, après que je retravaille complètement. Par exemple, pour écrire des chansons, quand j'ai le thème, mais que j'ai absolument aucune inspiration sur les phrases, les tournures et tout, je fais générer plusieurs textes par l'IA. Et après, moi, je retravaille complètement, je prends ce qui m'intéresse, je reformule. Enfin, je pense que l'IA, c'est intéressant par rapport à ça, justement, comme matériau de base, mais après il faut retravailler derrière.
Moi, l'IA, c'est plutôt de l'amusement. Je l'utilise quand j'ai juste envie de m'amuser, de voir ce dont elle est capable. J'écris mon texte et je lui donne et je vois ce qu'elle peut générer grâce à ça. Et voilà, c'est juste de l'amusement, regarder les innovations, mais j'ai pas forcément d'a priori. Je regarde juste avec curiosité, mais sinon je l'utilise pas pour créer particulièrement.
Moi, j'ai tendance à pas trop utiliser l'IA, mais parce que je pense que je le vois un peu comme de la triche. Et c'est probablement lié au fait que j'ai peur que ça nous remplace un petit peu. Du coup, j'évite de l'utiliser parce que je me dis que la vraie manière d'écrire, c'est de le faire 100% soi-même. Mais après, c'est peut-être un peu excessif, mais voilà.
j'utilise pas l'IA parce que je sais que j'aurais pas envie de lire quelque chose qui a été produit par une IA. Je le lis parce qu'il y a des humains derrière et c'est ça aussi qui m'intéresse dans l'écriture.
Après, dans un milieu du coup artistique, à mon avis, elle n'est pas, du moins, elle ne peut pas en elle-même, toute seule, créer quelque chose. On ne peut pas lui dire, écris-moi un roman qui sera très intéressant. Tout ce qu'elle fera, c'est qu'elle écrira un roman qui sera très intéressant, selon les codes des romans très intéressants qu'elle aura vus, qu'elle en ait vu un ou un million, peu importe. Donc en elle-même, l'intelligence artificielle ne peut pas, pour moi, faire de littérature. Par contre, je pense que c'est un outil. C'est un outil qu'on peut utiliser, et c'est un outil qui pose des questions sur ce qu'est la littérature, car il utilise le langage, pour le coup, les modèles de langage. Donc, cet outil pose la question de comment on crée de la littérature une fois que l'IA existe. Tout comme s'est posé la question dans l'histoire, comment on crée de la peinture une fois que la photographie existe. On ne peut plus se contenter de faire des peintures qui vont essayer de mimer le réel. Du coup, ça va donner lieu à tout plein de mouvements que je ne connais pas parce que je ne suis pas extrêmement calé en peinture. Mais voilà, là, l'IA pose la question de est-ce que du coup, la littérature, c'est juste agencer des mots qui ont une certaine logique les uns avec les autres ? Et si une IA peut le faire, est-ce qu'on est toujours sur de la littérature ? Si une IA peut le faire, peut le créer ? Moi, je pense que non, parce que cette rupture, elle doit être créée par... justement par la création artistique humaine. Mais on peut par exemple utiliser l'IA pour diverses choses, comme on peut utiliser la technique. La technique va par exemple faire du cinéma quelque chose de différent. Mais ça va être un outil qu'on peut exploiter. Par exemple, ça peut être un outil pour non pas faire des recherches, parce que l'IA souvent elle hallucine, c'est-à-dire qu'elle dit n'importe quoi. Mais ça va être un outil de langue. Tout bêtement, on pourra trouver des synonymes, on pourra trouver des sons.
L'écrivain Aurélien Bélanger, primé en 2014 par le prix de Flore, chroniqueur sur Radio France Culture et pour l'émission Clic de Mouloud Achour, philosophe de formation, nous dit « Quand j'écris, c'est comme si je domestiquais ma propre intelligence artificielle. Puis, je rentre en profondeur en elle et peu importe qu'elle soit dans mon cerveau ou dans mon serveur, ensuite, il faut créer. La machine ne crée pas mon intention, aucune initiative créatrice de sa part, mais elle me nourrit aussi. Et l'essentiel après tout, c'est que nous nous entendions bien. » Pour cet auteur, l'IA est sa coéquipière. Il ajoute « Nous ne sommes pas en concurrence. L'essentiel est donc que nous servions l'intrigue et délivrions notre message. » Cet écrivain de 44 ans veut lever le tabou à propos de l'intelligence artificielle dans le monde littéraire. À ses yeux, les auteurs doivent pouvoir explorer les possibilités offertes par ces machines-outils tout en fixant des normes éthiques. Mais qui fixe quoi ?
Donc, l'IA, pour moi, elle pourra être utilisée comme un... L'IA, et particulièrement les modèles de langage comme on les voit maintenant, pourraient être utilisés comme des outils, mais pas en eux-mêmes. Ils pourraient être utilisés, voilà, tout simplement comme, par exemple, des outils de recherche. Comme par exemple, le traitement de texte est apparu et a permis techniquement de faire ce que beaucoup d'écrivains faisaient déjà, c'est-à-dire de découper des paragraphes. Par exemple, Proust découpait ses paragraphes, il en a mettait d'autres avec l'ancêtre du post-it, des paperolles. Et bien, une avancée technique lui a permis de faciliter sa vie. Je pense que pour l'intelligence artificielle, c'est pareil. Je pense, voilà, qu'elle ne peut créer finalement que du commercial utilisé en elle-même, et que de toute façon c'est le but, hein. Faut voir qui développe ces outils, c'est des boîtes commerciales, leur but c'est avant tout de permettre de faire de l'argent, quoi.
Le souci, c'est qu'une innovation quelle qu'elle soit, de toute manière elle peut être bénéfique, mais quand elle est utilisée par de mauvaises mains, ça ne peut pas l'être. Individuellement, en tant qu'auteur, on peut l'utiliser comme une machine à écrire ou comme un simple outil d'écriture, comme il y en a déjà, notamment avec Internet ou d'autres innovations qu'il y a eu. Mais dans des mains, je dirais, un peu plus larges, dans le cas peut-être maison d'édition, entreprise, quelque chose qui a un lien avec le système, je pense que n'importe quelle innovation, y compris l'IA, peut être pervertie, quelle que soit, et faire profiter plutôt des intérêts économiques plutôt que des intérêts artistiques.
Surtout qu'il n'y a vraiment pas de réglementation. En fait, pour le moment, à propos de ça, il n'y a pas de réglementation. Donc c'est vraiment la porte ouverte à tout. Et du coup, on se retrouve avec des livres qui sont complètement écrits par des IA, alors qu'il y a plein d'auteurs qui écrivent des livres et on ne les publie pas.
Je sais que ça a déjà été créé, soit ça ne va pas tarder à être créé, mais il y a un label justement écrit par humain. Donc peut-être que ça va devenir notre nouvelle solution pour savoir ce qui a été fait par un humain et ce qui a été fait par une IA. Mais voilà, à voir si les gens, ça les intéresse aussi, de savoir si ça a été écrit par une IA ou par un humain. Il faut aussi, est-ce que les lecteurs s'en fichent? Est-ce que ça a de l'importance? On ne sait pas.
Des auteurs et des éditeurs critiques plaident pour un label identifiant les œuvres générées ou coécrites par une IA. Une maison d'édition, Librinova, a annoncé en janvier 2024 lancer un nouveau label certifiant qu'une œuvre est bien sortie seule d'un cerveau, que cette œuvre soit écrite, audiovisuelle ou musicale. Le sacré doit rester du côté de l'humain et la machine artificielle. Mais force est de constater que l'intelligence artificielle transforme progressivement la manière dont la littérature est créée, étudiée et consommée. L'IA transforme également la façon dont les lecteurs interagissent avec les textes. L'outil est si tentant. Un gain de temps. Et le temps, c'est de l'argent dans ce monde où le pognon est roi.
Mais pour rebondir sur ce qu'a dit Inès, c'est que oui, c'est ce genre de label, je pense que ça va se propager, ça va se démocratiser, c'est important, mais je pense que plus les gens vont avoir une habitude de consommation particulière par rapport à l'IA, simplement satisfaire leurs envies de lecture, plus à mon avis la provenance, surtout chez les jeunes lecteurs, importera peu, et donc ils vont s'habituer à lire du contenu qui n'est pas écrit par un auteur et à considérer la lecture plus comme de la consommation plutôt qu'une activité purement artistique. Donc je pense qu'actuellement le danger, effectivement à ce niveau-là, vu que l'IA est encore dans le débat éthique, n'est pas vraiment présent. Il y aura toujours des gens pour valoriser le travail des auteurs plutôt que celui d'une IA. Mais peut-être que les générations suivantes n'auront plus cette habitude et que là on pourra voir un monde complètement changé dans ses habitudes de consommation.
Si l'IA présente pour certains un potentiel excitant pour la littérature, elle soulève surtout des questions éthiques et philosophiques. Peut-on vraiment parler d'originalité et de créativité lorsqu'une œuvre est en partie générée par une machine? Quel est le rôle de l'humain dans une œuvre coécrite avec l'IA? Quelle place l'IA tient-elle dans le développement et le raisonnement d'une œuvre? Et quel coût? On pourrait rajouter la question économique. Ces questions continuent d'alimenter et d'animer les débats.
En soi, en tant qu'outil, cela peut complètement servir à notre pratique. Il y a un intérêt très très fort. Mais, encore une fois, le débat est principalement éthique par rapport à l'IA. Et on se demande, mais finalement, quelle est la provenance de ce qui va nous inspirer? Est-ce que ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un d'autre que l'IA a finalement recyclé? C'est toute la question. Mais oui, c'est utile.
Oui, mais techniquement, quand on écrit à partir de plein d'autres trucs autour de nous, des arts, des médias et tout. Et c'est un peu ce que fait l'IA en générant des textes et des images. Et elle prend ce qu'il y a dans sa base de données et elle génère à partir de ça. Donc elle fait un peu comme nous techniquement, hein. Enfin, dans le principe en lui-même.
Elle fait comme nous, sauf qu'elle ne crédite pas. La provenance, c'est toute la différence en fait. On ne sait pas de quoi on s'inspire et c'est assez dommage. C'est important dans le processus créatif de connaître ses références, connaître ce qui nous inspire pour faire mieux, faire différemment. L'IA est finalement plus un symptôme, une conséquence de notre manière maintenant de créer, mais peut-être que c'en est sa version la moins éthique.
Plutôt qu'économiquement parlant, l'IA, à terme, elle est quand même plus lucrative que les humains. Donc, enfin, on a eu un exemple avec la grève des scénaristes aux États-Unis, parce que les producteurs remplaçaient les scénaristes justement par des IA pour écrire des blockbusters et tout. Et, enfin, c'est un peu des dérives comme ça qui sont pas bonnes en fait pour les écrivains, les scénaristes et tout ça.
Bien que l'IA ne remplace pas encore l'écrivain humain, encore seul à l'initiative de la création d'un texte littéraire, elle semble déjà pour certains, comme le rappellent de nombreux auteurs de cette fausse nouvelle vague, enrichir l'expérience littéraire à la fois pour les créateurs et les lecteurs. Cette technologie, qui semble sans limite, opère une transformation des rapports sociaux et, pour ce qui nous intéresse ici, de la pratique littéraire. Alors, on nous le rappelle sans cesse, jusqu'à présent, l'IA n'initie rien, ne crée rien, est programmée par la patte humaine. Elle est au service d'eux. Mais jusqu'à quand? Car qui ou quoi pour arrêter le ver dans la pomme, le poison dans la dose, et cet homme qui reste un loup pour l'humanité.
Bip boup bip boup, nous sortons du bal friture, vous pouvez débrancher vos interfaces auditives.
Je suis un robot à pince.
On se retrouve un de ces lundis.
Ding, clong, ding, clong.
Oui, 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 oui.
Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format. Technologic, 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 technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, crack it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch. Break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, scroll it, close it, click it, cross it, crack it, switch, update it. Scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, crack it, drop it, zip and zip it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it. Leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, crack it, drop it, zip and zip it, surf it, scroll it, close it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, cue it.
Technologic. 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 Technologic.